Donc tu me fais pleurer avant de commencer, c'est sympa. Merci beaucoup Hélène. Merci à votre pasteur Norbert de m'avoir invitée avec le conseil. Je suis touchée. Alors, évidemment, j'ai une amitié particulière avec Loïc et Hélène, mais je suis heureuse d'être au milieu de vous. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter. Si vous me connaissiez, je ne flatte pas. Ce n'est pas mon genre. Mais je me sens bien. Je trouve que votre église est vraiment en vie. Elle donne envie, mais elle est vraiment en vie. Et je partage depuis hier avec vous, avec les dames. Ça a été un temps où j'ai raconté ma vie. Donc, il y avait de tout dedans. Et puis, j'ai pu partager avec les jeunes aussi, donc les jeunes adultes et quelques jeunes du groupe Horizon. Et voilà, c'est toujours vraiment une bénédiction comme ça de pouvoir connaître d'autres personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il y a sur mon cœur. J'espère que ça correspondra à quelque chose qui est sur le vôtre aussi, ou que ça pourra vous parler. Et donc, si vous avez suivi hier, vous allez comprendre pourquoi je parle du service, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important pour moi dans la notion de service. Et je voudrais vous encourager à regarder aujourd'hui quelles sont vos motivations pour servir Dieu et son Église. Alors, hier, quand je voyais toute l'équipe avec Florence et tout, du buffet, des dames, tout ce que vous faisiez, je me disais, oh là là, ça ne sert à rien de les encourager sur le service, parce qu'ils ont déjà tout compris. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris dans l'équipe, voilà, que tout le monde a besoin d'encouragement. Donc, peut-être que vous vous dites, moi, je n'ai pas du tout de motivation pour servir, je n'ai pas envie. Donc ça va vous aider, j'imagine. Parce que, comme on partageait avec les jeunes hier, parfois, on croit que quand on sert Dieu, il va nous manquer quelque chose. Que quand on se donne, on donne du temps, qu'on donne de notre énergie, du coup, ça va nous enlever quelque chose. Et il y a un principe en Dieu qui est vraiment l'inverse. Parce que plus on donne, et plus on reçoit, et plus on donne, et plus on reçoit. Donc, si on part déjà avec cette motivation-là de se dire, oui, je donne un peu, il va y avoir quelque chose qui va pas aller. Alors, pour vous expliquer où je veux en venir, la première chose, c'est Fanny Lou qui merci beaucoup, que je voudrais juste aborder avec vous, c'est que servir Dieu et son Église, ça répond à un besoin essentiel dans notre vie. On va survoler dans deux minutes nos besoins. C'est peut-être un peu psycho, mais bon, je vous donne ce que j'ai sur le cœur. Vous savez que évidemment dans le jardin d'Éden, tous les besoins étaient comblés avant la chute. C'est tous les besoins essentiels. D'ailleurs, il n'y avait pas de besoins. Ça n'existait pas les besoins. Il y avait Dieu se promenait avec Adam et Ève dans le jardin. Ils vivaient une plénitude absolue. Leurs besoins donc étaient couverts. Ils étaient dans cette espèce de fusion avec Dieu qui était vraiment incroyable. Et évidemment, avec la désobéissance, ils ont commencé à sentir des vides en eux et des soucis et des besoins. Et le premier, c'était de couvrir ce besoin, de couvrir leur nudité, parce qu'ils ont ressenti la honte. Ils ont perdu confiance en Dieu, parce que Satan avait bien su leur mettre le doute. Et puis, voilà, ils avaient chuté. Donc, ils avaient besoin de remplir ces vides par tous les moyens. Et en fait, si on analyse un petit peu dans nos vies, on va voir une pyramide, là tu anticipes, merci, une pyramide qui n'est pas de la pyramide de Maslow pour ceux qui ont fait de la psycho, mais qui est un peu dans le même genre, et qui parle de nos besoins. Et en fait, avec Dieu, si vous arrivez vraiment à réfléchir à tout ça, vous avez la solution en Dieu pour tous vos besoins. Le premier, c'est ce besoin de sécurité. À qui je peux faire confiance? Où mettre ma sécurité? Alors, quand on n'a pas Dieu, on le met dans le travail, dans le confort, dans la réussite financière. Mais l'important, c'est vraiment de réaliser, je vais aller vite sur ces cinq besoins, mais notre sécurité, elle est en Dieu. Si j'arrive à réaliser ça et à m'asseoir et asseoir ma sécurité sur Dieu, eh bien, je peux continuer à construire ma vie parce que ce besoin-là va être vraiment, vraiment couvert. Ensuite, j'ai besoin de savoir qui je suis, quelle est mon identité. J'ai été créée à l'image de Dieu, ça, nous le savons, je suis citoyen ou citoyenne du royaume de Dieu. Et vous savez que souvent, les gens mettent leur identité dans ce qu'ils font. Pour ça, j'ai bien aimé ton introduction, effectivement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'être présenté par ce qu'on fait, mais par qui on est. Aussi, on met parfois notre identité dans ce qu'on a, et peut-être ce qu'on peut montrer aux autres, dans l'apparence qu'on peut montrer. On a peut-être des tendances naturelles, alors on croit que c'est notre identité, ce que le monde nous dit aujourd'hui. mais nous sommes voilà, des créatures de Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes aimés par lui. Et donc, encore une fois, si on arrive à asseoir ce besoin, à combler ce besoin en Dieu, on peut avancer, il y a la sécurité, il y a on savoir qui on est et on peut continuer. Ensuite, on a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin d'appartenance. Et évidemment, l'Église, c'est vraiment une réponse à ce besoin. Dieu est parfait, donc on veut savoir qui m'aime, est-ce que j'ai une place quelque part. Et donc, dans la famille de Dieu, évidemment, si on joue le jeu de se laisser aimer par les autres, on sait que Dieu me donne une famille, que Dieu m'aime sans condition et il m'offre une place dans sa famille spirituelle. Ensuite, on a un besoin d'objectif. Et donc, à chaque fois, c'est comme une construction. Si vraiment j'arrive à mettre vraiment sécurité, identité, l'appartenance dans ma vie, j'ai une stabilité encore plus grande. Et ce besoin d'objectif, c'est pourquoi je suis sur Terre. Et donc, nous savons, si nous sommes en Dieu, qu'on est sur Terre parce que Dieu nous aime, parce qu'il veut avoir une relation avec nous, et puis parce que nous devons lui rendre gloire. C'est vraiment ça notre objectif. Donc, effectivement, ça change un peu tout, la perspective. Si tout ce qu'on fait, on essaye de dire que c'est pour la gloire de Dieu, normalement, ça devrait changer tout ce qu'on fait, parce qu'on est dans un objectif qui est vraiment tourné vers Dieu. Et le dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement, et c'est là-dessus que je voudrais accrocher ma notion de service, parce que la notion d'accomplissement, c'est de se dire à quoi je peux être utile. Donc j'ai mon objectif, c'est rendre gloire à Dieu, mais j'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin d'accomplir une mission. Et donc, évidemment, dans le service, le fait de servir Dieu, de servir son Église, on a tout ça. On a l'accomplissement et on peut arriver sur le contentement qui est vraiment quelque chose dont Paul nous parle dans ses épîtres. Apprendre à être content, c'est pas joyeux et un peu insouciant. C'est vraiment d'être comblé. Et donc ce sentiment d'accomplissement, on l'a vraiment quand on accomplit la mission que Dieu nous a donnée, quand on est vraiment au service de Dieu. Donc la première motivation, si vous n'en aviez pas, mais j'imagine que vous en avez quand même, pour servir Dieu et son Église, c'est de se dire vraiment, je mets tout ça en place, ma sécurité, mon identité, mon appartenance, je sais que c'est tout pour la gloire de Dieu, mais je vais me trouver vraiment l'utilité dans le service. Alors évidemment, le service, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais ça peut prendre plein de choses. Vous l'avez vu dans les annonces, ça va de la louange au fait de pouvoir faire un vestiaire, au fait de pouvoir faire une colonie de vacances. Enfin, on a différentes façons d'être utile et de servir Dieu avec les dons et les talents qu'il a mis en nous. Mais donc, le service est vraiment ce que Dieu a inventé de mieux pour qu'on se sente accompli. Alors, quand on sert, avec quelle mentalité on sert ? Est-ce que c'est avec une mentalité de bénévole ou est-ce que c'est avec une mentalité de serviteur ? Vous allez me dire peut-être que vous ne voyez pas trop la différence, parce que dans les associations, dans les clubs, c'est toujours des bénévoles. Hein, on ne dit pas pour le club de pétanque, il y a 25 serviteurs qui sont... on dit toujours des bénévoles. Alors, on a parfois l'impression qu'on calque sur l'Église la notion d'association et que donc on est aussi des bénévoles. Alors, c'est sûr que... On peut être bénévole, hein. on peut avoir cette mentalité, mais je voudrais qu'on essaye de comprendre à la lumière de la parole de Dieu, si on est vraiment dans cet accomplissement de nos vies, la notion de bénévole, elle va pas bien caler là-dedans. Donc j'ai besoin vraiment de comprendre que tout ce que je fais, c'est parce que je me donne en tant que serviteur. Alors, voyons un peu les deux choses entre bénévoles et serviteurs dans l'Église. Les deux ne travaillent pas pour l'argent, on est d'accord ? Les deux travaillent pour Dieu et son royaume. Les deux se sentent concernés par les autres. Les deux ont à cœur l'œuvre de Dieu. Les deux font partie de la communauté. Et les deux tirent une satisfaction de ce qu'ils font. Donc vous allez me dire, alors c'est la même chose. Eh bien non. Alors je vous prends un petit exemple. Si vous prenez les fourmis et les abeilles, vous allez comprendre la différence entre bénévoles et serviteurs. Parce que les tâches des fourmis et des abeilles, c'est de collecter de la nourriture, de creuser des tunnels ou des alvéoles. Enfin, je suis pas très douée en apiculture, mais donc elles ont une tâche, une mission, et c'est aussi de prendre soin de leur reine, chacune dans leur communauté. Est-ce qu'elles le font parce qu'elles sont bénévoles, à votre avis, ou est-ce qu'elles le font parce qu'elles ont compris que c'était une question de vie ou de mort pour la reine, qu'elles font partie d'une communauté, qu'elles ont une tâche, qu'elles ont un rôle bien précis et important? Donc là, je pense qu'on arrive à comprendre un petit peu la différence entre bénévoles et serviteurs. C'est notre manière d'aborder le service, la mission. Est-ce que je fais comme si je suis vraiment un membre essentiel, parce qu'on est tous des membres essentiels de la famille de Dieu, ou est-ce que je le fais comme si c'était un petit peu un hobby ou selon mon bon vouloir? On va voir ça un petit peu. Quand Jésus était sur Terre, je ne pense pas qu'il ait passé sa vie à recruter des bénévoles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais non, je ne crois pas. Il a passé son temps à appeler des hommes et des femmes à être serviteurs. Et évidemment, Paul encourage les Philippiens là-dessus en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc on a vraiment ce modèle. Et un peu plus loin, toujours dans Philippiens, il nous est bien expliqué cette notion de serviteur en Jésus, dans la personne de Jésus. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc ce passage est clair sur la mission de Jésus quand il est venu sur terre. Mais donc ce que j'ai normalement souligné, oui, c'est qu'il a pris la condition de serviteur. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications là-dessus, mais le mot serviteur, là, c'est le mot en grec qui dit doulos. Et ce mot-là, alors on n'aime pas le traduire par esclave, mais c'est le mot esclave. Alors il y a des traductions plus près du texte qui vont mettre esclave, mais sinon on met serviteur parce que c'est moins choquant. Et à l'époque, ça parlait d'autant plus qu'il y avait ce système d'esclavage dans ce contexte de la société gréco-romaine. Et nous, parfois, on a du mal à supporter ce mot esclave, évidemment, ou même serviteur, parce que on pense à un maître abusif, on pense à un maître qui est inhumain, on pense à vraiment de l'abus, on va dire. Or là, quand on est serviteur de Dieu, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'on n'est plus esclave du péché, mais qu'on est esclave de Dieu et de sa justice, eh bien, on comprend d'abord que notre maître est parfait. Donc, on ne peut pas mettre le filtre qu'on a sur l'esclavage. Et bien sûr, on dénonce l'esclavagisme, hein, on est d'accord. Mais là, dans la notion spirituelle, on ne peut pas dénoncer ça, puisque notre maître est parfait, puisque Dieu est parfait. Il n'est pas abusif, il va chercher vraiment toujours à prendre soin de nous, il nous nourrit, il cherche notre intérêt, il nous aime. Donc enlevons-nous ce filtre de l'esclavage et réfléchissons vraiment à ce que ça veut dire que Dieu nous appelle, que Jésus nous a montré, et qu'il est devenu, il a pris une condition de serviteur, donc d'esclave, et qui nous appelle à faire la même chose. Et nous savons que Dieu nous appelle à la liberté, hein, qu'on n'est plus esclave du péché, qu'on est vraiment en lui et qu'on trouve une liberté. Alors c'est quand même toujours paradoxal. On est esclave ou on est libre? Et bien, c'est tout le paradoxe de ce que Dieu veut nous dire. Il nous appelle vraiment à être des doulos. Et on va voir des caractéristiques de ces doulos. D'abord, un esclave, un serviteur, j'ai gardé serviteur pour ne pas vous choquer plus avec ce mot, mais donc, eh bien, le serviteur ou l'esclave, il appartient à son maître. Okay, il est ça, c'est vraiment, on est la propriété de notre Dieu, on est sa propriété. Le serviteur vit sa vie en étant soumis aux principes et aux règles établies par son maître. Donc, nous avons évidemment la parole de Dieu est vraiment notre manuel de vie et nous savons. Nous voulons nous soumettre à sa parole et à ses principes. Le serviteur est totalement dépendant de son maître. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand on essaye de faire des choses par soi-même et de se la jouer un peu, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Alors que vraiment, on cherche toujours dans notre vie, il faut chercher à être dépendant de lui. Et souvent, les épreuves, malheureusement, nous apprennent cette leçon-là, de dire qu'au travers de l'épreuve, qu'est-ce que je fais? Je crie à Dieu, je lui demande son aide et j'apprends à être dépendant de mon maître. Le serviteur sert son maître de manière volontaire. Alors, les esclaves de l'époque, non, puisqu'on était esclaves de père en fils, et enfin, c'était familial, c'était toujours comme ça, que ça, à moins d'être racheté. Mais nous, comme on a cette liberté que Dieu nous a créés libres, on est libre d'être son serviteur et de le servir de manière volontaire. Le serviteur n'a qu'un devoir, celui de servir son maître. Le serviteur ne négocie jamais son salaire. La volonté de son maître est toujours bonne à accomplir, même s'il ne la comprend pas. Et le serviteur a des motivations éprouvées, c'est ce qu'on est en train de voir, et le serviteur n'a pas honte de sa condition de serviteur. Donc je ne sais pas si vous commencez à un peu réfléchir, donc toujours de comprendre pourquoi je parle de bénévole et pourquoi je parle de serviteur, et montrer que vraiment c'est deux mondes différents, et que dans l'Église on ne peut pas être des bénévoles, ou alors il faut vraiment chercher à changer. J'ai résumé ça en disant finalement, quand je suis serviteur, c'est que je me fais don à Dieu. Je lui appartiens de toute façon, mais je me fais don à Dieu. Je décide volontairement de dire, voilà, j'aime mon Dieu, avec ce verset qu'on a cité en début de culte aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de cette manière-là, c'est de se faire entièrement don à Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, quand on dit voilà, je mets tout mon cœur pour faire cela, ben en fait c'est toute sa vie, son intégrité, enfin toute son entièreté, toute mon âme, c'est toutes mes émotions, tout ce que je ressens, et je veux l'aimer avec tout cela et toutes mes forces. On sait ce que c'est aussi une pensée, on sait aussi. Donc l'idée, c'est que je me mets complètement, je m'abandonne complètement à Dieu, je me fais don à Dieu. Et puis aussi, je me fais don à l'Église, comme Jésus l'a fait. Alors ça, c'est là où ça tique peut-être un peu. Mais on a plusieurs commandements, donc d'aimer son prochain comme soi-même, mais aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ce « comme », c'est vraiment de dire, c'est comme Jésus l'a fait, nous devons nous aimer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous le savez, il a donné sa vie, il a tout donné. Et on a vu dans le passage de Philippiens, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, et il a tout donné pour nous. Et donc c'est de cette manière-là qu'on doit aimer les autres et les servir, et servir son Église. Donc je me fais don à Dieu et je me fais don à l'Église comme Jésus. Jésus nous a donné une parabole qui parle du service et qu'on trouve un peu sévère, je l'avoue, on va la lire là, qui est un petit peu dure. Il dit, si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc c'est dans l'évangile de Luc. Un peu dur, hein, un peu sévère, de dire quand même, il n'y a pas tellement de reconnaissance là. C'est bizarre. Finalement, dans ce qui nous choque surtout, c'est l'histoire des serviteurs inutiles. Parce que je dis, bah, déjà, je suis serviteur, c'est déjà bien. Hein, si en plus, on me traite d'inutile. Alors, la traduction a été prise, on a choisi inutile. Mais si on creuse un peu, c'est plutôt qui n'a pas de mérite, en fait. Dans d'autres traductions, il est dit sans mérite. On a obéi. On ne doit pas en plus avoir une médaille, parce que notre boulot de serviteur, notre tâche, notre mission, c'est d'obéir à Dieu. Donc Dieu nous encourage, il nous exhorte de différentes manières, mais on n'a pas besoin d'avoir une médaille à chaque fois qu'on sert Dieu. Ça fait partie de notre vie, c'est normal. Donc on est sans mérite particulier, c'est ça le côté inutile. Et vous savez, cette parabole, elle survient quand les disciples sont associés à la mission de Jésus, quand il les envoie deux par deux et qu'ils commencent à enseigner, à faire des miracles. Voilà. Et ils découvrent, je pense, hein, qu'ils découvrent, parce qu'après ils essayent de savoir qui va être le premier, tout ça. Mais ils découvrent qu'en servant Dieu, ben, on peut tomber dans l'orgueil. On peut chercher à être reconnu, avoir cette motivation d'être reconnu, d'être récompensé, peut-être de s'approprier les bonnes places et de revendiquer des droits. Et donc, tout de suite après ça, eh bien, Jésus leur donne cette parabole en disant, ben, non, si vous servez Dieu, là, tout ce que vous faites, quand vous allez deux par deux, ben, c'est parce que vous faites, parce que vous obéissez au Père, comme Jésus obéissait aussi à tout ce que le Père lui disait de faire. Parfois, on se dit... dans ma vie, il y a une chose qui m'a bien énervée quand ma mère, qui était avec mon père, qui était pasteur, elle est décédée d'un cancer. Et les gens me disaient à l'enterrement, certaines personnes me disaient, elle méritait pas, hein, vraiment, avec tout ce qu'elle a donné, vraiment, elle méritait pas. Et ça m'en mettait en colère parce que je me disais, quel est le rapport entre avoir servi Dieu toute sa vie et le rapport de mériter de mourir ou de pas mourir. Ça n'a aucun sens, mais c'est une pensée vraiment du monde, malheureusement. Et je crois qu'on a un petit peu cette pensée aussi quand on sert Dieu. Parfois, on se dit, Seigneur, je fais ça pour toi, alors tu m'arranges le coup quand même, tu me le dois quand même. On a une vie qui est centrée un peu sur nous et on a l'impression que voilà, ok, je te fais plaisir, mais faut, voilà, bon, on négocie un peu, mais notre vie elle doit être centrée sur le maître, sur ce dont il avait besoin de manger et de boire là dans cette histoire. Il était tard, il avait travaillé, voilà, bon, et donc Seigneur, je fais ça pour toi, le maître. Je ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour avoir une récompense quelconque. Je fais que ce que je dois faire. Alors, j'ai essayé de résumer l'Église locale. C'est peut-être un peu, mes propos vont peut-être être un peu durs, là, mais je dis que l'Église locale, ce n'est pas un club de bénévoles qui donne un peu du temps qu'ils ont, qu'il leur reste quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Parce que ça, je vois bien dans mon église aussi, c'est genre, je fais tout ce que j'ai à faire, je fais tout ce que j'ai envie de faire, et puis si j'ai un petit peu de temps, je le donnerai. Ça, c'est les bénévoles. Donc, c'est pas ça. C'est pas non plus des gens qui offrent un peu de leur temps libre pour une bonne cause. Ça, peut-être qu'on le trouve dans le monde, mais pas dans l'église. L'église locale, c'est une communauté de femmes et d'hommes qui ont été rachetés à un grand prix, qui consacrent leur vie entière à leur maître. Il a donné sa vie pour eux par amour. Eux le servent, motivés par leur amour pour Dieu et pour son Église. Donc cette communauté d'hommes et de femmes que nous sommes, elle ne revendique rien, elle est centrée sur Jésus, le maître, reconnaissante de faire partie de cette mission. Il y a quelque chose... pour ceux qui vivent ce service et qui sont déjà à fond dedans avec la bonne motivation, il y a quelque chose de joyeux de se dire oh, mais quel privilège j'ai. Moi, j'ai quel privilège j'ai de venir ici aujourd'hui à Nîmes et que le Seigneur m'utilise de cette manière-là. Ou, voilà, quel privilège. Je veux rien revendiquer hein, pour ça. Et ça provoque un contentement. Il y a quelque chose vraiment dans nos vies quand on est comme ça dans le service, parce que c'est ce sentiment d'accomplissement, ce besoin d'accomplissement qui est comblé. Il y a un contentement malgré les difficultés, hein, malgré les épreuves. Il y a quelque chose vraiment une profondeur avec Dieu qui s'installe parce qu'on est vraiment reconnaissant et qu'on donne notre vie en retour c'est par rapport à tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est de le servir ? C'est juste, on répond... Avec amour. Encore un exemple de Jésus dans Jean. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce que je comprends dans ce texte, c'est que si je ne sers pas, c'est que je me crois plus grand que le maître. Si je ne suis pas dans cette mentalité de doulos, de serviteur, eh ben c'est que je me prends pour le maître. Ça va plus là. Il y a un petit souci. On peut pas être chrétien et se prendre pour le maître. On est vraiment ses serviteurs. Et en plus, il montre l'exemple. C'est le dernier acte qu'il fait comme ça avant de partir mourir et à la croix. C'est vraiment de montrer le service. Donc, si ça n'avait pas été important, il l'aurait pas fait à ce moment-là. Là, c'est vraiment son testament. Il laisse son testament. C'est vraiment servez-vous quoi. Servez les uns les autres. Lavez-vous les pieds là. C'est vraiment d'une telle humilité. Ce passage-là de la parole de Dieu, c'est beau. Donc, ne nous prenons pas pour des stars. C'est ça, j'avais le français très courant. C'est nous ne prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes vraiment à son service. Et pour terminer, le bénéfice de tout ça, donc quand on sert Dieu et son Église, ce que je disais, on comble ses besoins d'objectifs et d'accomplissement, et plus. Et plus. Et le plus, on va le voir dans ce verset, ce texte de Jean 15. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Ça, c'est, on est d'accord. Vous êtes mes amis. Voilà ce que dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, ce n'est pas la notion de l'amitié dans le monde, parce qu'on n'est pas amis quand on commande ses amis. Mais c'est la notion spirituelle, voilà, c'est la notion de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, doulos, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Alors on pourrait croire que Jésus se contredit là, parce que d'un coup il parle deux minutes avant il disait qu'il fallait être serviteur, là maintenant il dit non, vous êtes mes amis parce que vous n'êtes plus appelé serviteur. Alors on est bien d'accord, c'est je ne vous appelle plus, c'est pas vous n'êtes plus des serviteurs, c'est je ne vous appelle plus. Le nom a changé et c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'en servant Dieu, eh bien on devient les amis. Et je l'ai résumé comme ça, que le vrai serviteur, le vrai doulos, il est l'ami de Jésus. Et on peut s'arrêter là, hein, être ami de Jésus, mais comment c'est possible? On est moche, on est pécheur, on se plante tout le temps, et parce qu'on est dans le service, parce qu'on a une bonne motivation, il m'appelle, il vous appelle ses amis. Et ses amis qui partagent sa joie. Regardez ce passage qui est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Et donc c'est encore une parabole que Jésus donne, mais qui nous parle du service et qui nous parle de faire fructifier les dons et les talents qu'il nous a donnés. Et vous voyez le baromètre qu'on peut avoir dans nos vies pour savoir si on est bénévole ou serviteur, c'est cette notion de joie. Parce que quand on est serviteur, on partage la joie. Il y a quelque chose, comme je vous dis, il y a un contentement, il y a quelque chose de profond dans le service qui fait qu'on partage déjà ici-bas, et bien sûr dans le ciel, vous imaginez ce que ça sera, mais déjà ici-bas, on partage la joie de son maître. On partage la joie de Jésus. Il y a quelque chose vraiment qui nous comble au-delà de toute espérance. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef, hein, de servir Dieu. Ça ne vous prend rien. Bien sûr, ça vous prend du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, de l'essence, j'en sais rien, selon ce que vous faites. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être l'ami de Jésus et de partager sa joie. Donc voilà, je voulais vous encourager. J'ai vu déjà dans votre église que le service est bien actif. Mais peut-être que ça repose que sur un petit noyau. Ça, c'est possible aussi. C'est dans toutes les églises comme ça. Et si vous preniez ce challenge de pouvoir être vraiment tous dans le service, avec cette belle mentalité de dire je fais ce que le maître me commande et de cette manière-là, je suis son ami. OK ? On va prier vraiment que chacun puisse examiner son cœur. Seigneur, merci pour cette belle église baptiste de Nîmes et les dons et les talents que tu as déversés sur tout le monde, puisqu'on a tous, on est tous au bénéfice de tes dons par le Saint-Esprit. Et Seigneur, j'ai vraiment à cœur de prier pour que tu fasses prospérer vraiment cette église dans tous les sens du terme, qu'elle prospère vraiment pour que ton royaume avance ici dans cette région. Seigneur, que chacun puisse se dire oui, peut-être, Seigneur, pardon, parce que je n'avais pas cette notion j'étais dans cette notion de bénévole, de dire ce qui me reste comme temps, ou voilà, je veux bien aider de temps en temps. Mais qu'on soit vraiment tous dans le don de soi, je me fais don à Dieu, tu m'as tout donné, mais moi je me donne à toi. Et que si je me donne à toi, Je veux vraiment servir ton Église, je veux servir la mission ici, avec un cœur qui n'est pas partagé, mais qui est vraiment entier. Merci parce que tu nous appelles tes amis. Merci pour la joie qu'il y a vraiment à te servir et à participer, même si nous sommes ces serviteurs inutiles parce que nous faisons que ce que tu nous demandes. Mais vraiment, quel bonheur et quelle joie de partager cette mission ensemble et avec toi. Alors bénis cette Église, Seigneur, en ton nom tout-puissant. Amen.
Merci beaucoup.